rencontre de ce jour va s'articuler autour de quatre temps forts. D'abord, la présentation des trophées que le SINAFOC a brillamment remportés lors de l'Assemblée générale de la FIFA Pro, qui s'est tenue à Bali en Indonésie du 25 au 28 novembre 2024. Ensuite, nous présenterons le baromètre des salaires du mois de décembre. En troisième lieu, nous ferons le point sur la procédure en contestation des résolutions de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024, retirant au SINAFOC sa qualité de membre de droit de l'Assemblée générale de l'Afrikafoot. Et enfin, comme à l'accoutumée autant pour moi, nous nous plierons au jeu des questions et réponses. S'agissant des prix remportés par le SINAFOC lors de l'Assemblée générale ci-dessus citée, il convient tout d'abord de vous expliquer ce qu'il représente. Le prix FIFA Pro Merit Award for Union Impact, c'est celui qui récompense le syndicat dont les actions ont eu un impact significatif sur l'attention qui est donnée aux conditions de travail des joueurs et des joueuses. Le SINAFOC, comme l'ensemble des syndicats membres de la FIFA Pro, propose un projet, ensuite un jury est constitué et sélectionne trois projets qui seront soumis au vote public de l'Assemblée générale de la FIFA Pro. C'est un scrutin libre qui se fait par vote électronique. Les résultats s'affichent instantanément. Autant vous dire qu'il est impossible de marchander les votes. Vous conviendrez donc avec moi que depuis que le SINAFOC a lancé son baromètre en 2024, en mars 2024, il est incontestable que ce dernier a apporté plus de lumière sur les mauvaises conditions de travail de nos joueurs et joueuses. Il a par ailleurs atteint tous ses objectifs et parfois au-delà de nos espérances. Ces objectifs que nous rappelons ici sont les suivants. D'abord, objectif numéro 1, démontrer notre engagement à défendre les droits de ses membres en toute transparence. Si vous me permettez de développer un peu, vous avez dû suivre attentivement nos actions tout au long de la saison écoulée. Vous aurez noté que grâce au SINAFOC, la fédération sous la pression a mis un peu plus de détermination que les saisons passées dans l'exécution des décisions devenues définitives. La dernière en date, le 13 janvier 2025, c'est la réception dans son compte de la deuxième tranche de l'argent du joueur Joseph Bruno Eoch II. Cela n'est pas assez car nombreux joueurs attendent toujours d'être restaurés dans leurs droits. Le SINAFOC va par conséquent intensifier ses actions, certaines d'ailleurs pendantes devant les juridictions de la FIFA. Nous pensons par exemple à l'affaire Alexis Mevungu contre Djiko FC. À titre d'information, lundi dernier, la FIFA vient de sanctionner la Fédération tunisienne de football en réduisant de 20% ses subventions annuelles. Pourquoi ? Parce qu'elle ne montrait aucune volonté à faire appliquer les décisions de ses organes juridictionnel. C'est ce qui pourrait arriver ici au Cameroun et vous ne direz pas que le SINAFOC n'a pas averti. Il serait injuste vis-à-vis des présidents de ne pas mentionner le fait que, malgré nos positions différentes, nos antagonismes même, ils sont de plus en plus nombreux à nous saisir pour trouver des solutions amiables aux litiges salariaux qui les opposent à leurs joueurs. Objectif numéro 2 du baromètre, informer les joueurs ainsi que le public sportif national et international, les clubs qui payent régulièrement leurs joueurs et joueuses, lesquels ne payent pas. Objectif numéro 3, rappeler quelques points importants du règlement du statut du transfert du joueur qui dispose en son article 14 bis qu'en cas de non-paiement du salaire sur 2 mois minimum, le joueur a le droit de mettre son club en demeure de le payer sous quinzaine. Si celui-ci ne règle pas le différend, il est en droit de résilier son contrat. Le deuxième prix est le FIF Pro Merit Award for Player Impact. C'est celui qui récompense le joueur dans le monde dont les actions en dehors du terrain ont eu l'impact social le plus significatif au cours d'une saison donnée. Ce prix est assorti d'une récompense financière d'un montant de 10 000 dollars USA, environ 6 millions de francs CFA, ce qui n'est pas négligeable. Pour ce qui concerne le vainqueur André Onana, les fonds ont déjà été mis à la disposition de la fondation qui porte son nom. Nous invitons donc plus de joueurs à se rapprocher du SINAFOR pour faire savoir les actions qu'ils mènent en dehors du football qui pourraient être récompensées. Il faut dire que c'est le syndicat de chaque pays qui présente parmi les joueurs qui ont des projets celui qu'il pense être le meilleur et il le met donc en compétition avec les autres. Ce succès du SINAFOR méritait que nous les célébrions en présence de vous, la presse, qui relayait ces informations. Je pense que cela mérite des applaudissements. Il est vrai que je suis la face visible du baromètre, mais comme vous le devinez, c'est le résultat d'un travail d'équipe. En effet, derrière moi, il y a toute une équipe qui travaille dans les coulisses pour récolter, analyser, synthétiser ces données qui vous sont présentées. Elles aussi méritent des applaudissements. Alors, vous avez donc, comme je le disais tout à l'heure, ceci c'est le FIF Pro Merit Award Player Impact. C'est ce prix que André Onana a reçu. Nous sommes en train de nous organiser pour le lui faire tenir, soit lorsqu'il sera au Cameroun, soit nous irons le lui remettre dans son club. Ça pourrait également l'encourager, parce que nous savons tous que ces derniers temps ne sont pas de tout repos pour lui. Donc, voilà le prix qu'il a reçu. Et le second est celui de FIF Pro Merit Award Union Impact. C'est celui de l'action syndicale la plus impactante de l'année. Et donc, c'est celui que nous avons reçu à Bali, en Indonésie, il y a quelques semaines. Bien. Cela dit, et pour revenir au baromètre du mois de décembre proprement dit, nous n'allons pas vous le cacher, les chiffres sont mauvais. En MTN Elite One, le taux moyen de paiement des salaires s'élève à 25%, soit une baisse de 4 points par rapport au premier mois de compétition la saison dernière. En MTN Elite 2, il s'élève à 5%, soit une baisse de 10 points par rapport au premier mois de compétition de la saison dernière. En Guinée Super League, heureusement, il est de 100%. Ces chiffres s'expliquent par plusieurs facteurs. Le premier, c'est que la fédération, en violation de ses propres règlements, notamment la circulaire numéro 64/FCF/SG/DDF/CLM /2024 du secrétaire général de la FECAFOOT et ceux de la CAF a délivré des licences à des clubs notoirement connus pour ne pas payer les salaires des joueurs. ce qui n'aurait pas dû, ces clubs qui n'auraient pas dû prendre part au championnat sont donc là et continuent de faire ce qu'ils font de mieux avec la bénédiction de la fédération. Le second facteur, c'est la longue trêve observée, 8 mois, au lieu d'un mois lorsqu'on veut être sérieux. Celle-ci a eu le malheur de placer les clubs en grande situation d'inconfort, incapables de planifier correctement la reprise de leurs activités. Ils hésitaient donc entre recruter de nouveaux joueurs ou non, payer des salaires à des joueurs sans activité ou non, la grande majorité ayant repris au mois d'octobre, lorsqu'ils ont clairement choisi de payer les salaires pour ces mois-là. Ils expliquent aux joueurs à tort et parfois de mauvaise foi que ces salaires comptent pour les mois de la saison régulière. C'est la raison pour laquelle vous avez assisté à de nombreux mouvements d'humeur en club au début de cette saison. Que ce soit dans le canon sportif de Yaoundé, dans la Panthère ou même dans l'Union sportive de Douala, ces mouvements se poursuivront tant que les présidents continueront à interpréter avec malice les termes des contrats qu'ils signent avec les joueurs. L'actualité récente a même vu un président du côté de Douala se comporter en véritable gangster du Far West, menaçant ses joueurs qui réclamaient leur salaire avec une arme à feu. Ce président est par ailleurs membre du très respecté comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. C'est l'occasion pour nous ici de préciser que le contrat que les joueurs signent, même s'il peut être mentionné qu'il commence à produire ses effets à une date différente de celle de la signature, commence effectivement de produire ses effets au moment où le joueur participe effectivement aux activités du club. Et parmi ces activités, il y a les entraînements qui marquent la phase préparatoire de la saison. Certains joueurs nous ont déjà rapporté les agissements délictuels de certains présidents de clubs qui essayeraient d'obtenir de la rétrocession des salaires perçus. Alors, vous avez un tableau qui vous sera distribué du taux de paiement des primes de signature. Ce taux est de 25% en Guinness Super League, 35% en Elite One, 9 points de plus que la saison dernière, c'est un bon point. 3% en Elite Two, 3 points de moins que la saison dernière. Le taux de paiement des primes de match est de 92% en Guinness Super League, 60% en Elite One, 2 points de plus que la saison dernière, 40% en Elite Two, 4 points de moins que la saison dernière. Le taux de paiement des primes d'entraînement est de 100% en Guinness Super League, 99% en Elite One, 1 point de plus, de moins que l'année dernière, 100% en Elite Two. Pour conclure sur ce point, nous pouvons dire que les clubs ont de plus en plus de mal à respecter les engagements qu'ils prennent vis-à-vis des joueurs. Cette situation va s'accentuer parce que les signaux que nous avons l'indiquent. Les présidents de clubs, qu'il faut bien sûr blâmer pour ne pas suffisamment s'activer à trouver des ressources de financement stables, seront encore en difficulté. Tenez, c'est en plein championnat qu'il leur est demandé de trouver des ressources financières pour la location des stades qui abriteront leurs matchs à domicile. Est-ce sérieux? Ou pensez-vous qu'ils feront des économies sur les salaires et primes des joueurs? Là, la très querellée subvention gouvernementale dédiée à la prise en charge de 22 joueurs et 3 membres du staff qui ne leur a été versée que partiellement ou ne leur a pas été versée au cours des 3 dernières saisons écoulées, ne leur sera versée qu'en cours de saison. Entendons-nous bien. Cet argent qui doit être exclusivement affecté aux joueurs et aux staff a fait l'objet de marchandage et de chantage au point où il est passé de ressources de certains à ressources potentielles. Que dire des codes-parts du contrat Naming MTN? Voilà autant de signaux qui nous permettent de réaffirmer que les conditions des footballeurs se dégraderont mois après mois en cette saison particulière qui verra une nouvelle élection à la FECAFOOT. Mesdames et messieurs, amis sportifs, nous ne nous sommes pas vus depuis ce malheureux incident du 18 novembre qui a vu l'Assemblée générale de la FECAFOOT retirer au SINAFOC sa qualité de membre de droit, pompeusement désigné retrait d'agrément. Que s'est-il passé depuis ce jour? Le SINAFOC a continué ses activités couronnées par les prix que nous vous avons présentés. Le SINAFOC croule sous les demandes d'assistance des joueurs, dont les droits sont sans cesse piétinés. En croyant affaiblir le SINAFOC, on a plutôt renforcé sa position centrale. De nombreux présidents se cachant derrière cette résolution, agissent désormais comme de véritables négriers. Je vous partage quelques témoignages de joueurs. Il m'a dit que s'il ne me paye pas, le SINAFOC ne pourra pas m'aider. Va te plaindre au SINAFOC. Le président de la FECAFOOT est avec les présidents de club pour contrer les actions du SINAFOC. Si tu parles au SINAFOC, tu ne joueras plus. Si vous signez vos contrats, vous ne jouerez plus à l'équipe nationale de football. Voilà quelques témoignages qui confirment ce que nous écrivions dans notre communiqué, à savoir la fragilisation non pas du SINAFOC, mais des droits des joueurs. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. C'est pour cela que nous avons engagé des voies de recours. Et là, croyez-moi, vous allez être amusés. Le 24 novembre 2024, nous avons déposé un recours devant la chambre d'appel de la FECAFOOT. L'huissier commis à cette tâche a eu toutes les difficultés de la terre à accéder dans l'enceinte de la Fédération Camerounaise de Football. Il a même dû faire un constat de refus de réceptionner notre recours. La première audience fixée en décembre, a été renvoyée. Le 10 décembre a été renvoyé car un seul juge de l'ensemble de la commission de recours était présent, le vice-président. La seconde a été renvoyée deux semaines plus tard. Là également, ça a été renvoyé parce que c'est le président de la commission de recours qui était la seule, aucun autre membre. Le 13 janvier, troisième audience, elle a également été renvoyée parce que c'est le vice-président seul qui était là. Tout cela démontre que nous allons vers un déni de justice. Heureusement, les textes qui organisent le foot ont prévu ce qui se fait lorsqu'il y a manifestement un déni de justice. Je rappelle qu'à l'audience du 28 décembre, je vais vous donner la bonne date, la FECAFOOT qui a comparu et qui était représentée par son directeur des affaires juridiques a demandé avec insistance qu'on renvoie l'affaire au 13 janvier pour produire ses écritures en prétextant de ce que la FECAFOOT était, tout le personnel était en congé et qu'ils n'avaient pas le droit de travailler pendant qu'ils sont en congé. On a donc renvoyé ferme au 13 janvier et il ne s'est jamais présenté. Et c'est à ce jour qu'un cabinet d'avocats s'est constitué et a demandé un renvoi qui a été pour février, le 7 février. C'est-à-dire nous passons des renvois d'une semaine maintenant à des renvois d'un mois. Il faut dire aussi que dans notre recours, nous avons demandé les mesures provisionnelles qui consistaient à solliciter la suspension des effets des résolutions prises au cours de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. À ce jour, alors que les textes de la FECAFOOT demandent au président de la commission de répondre en urgence, rien n'a été dessus. N'a été dit dessus et à la dernière audience, il nous a même été dit qu'on n'avait pas vu que nous avions demandé ces mesures. C'est pour dire que le SINAFOC va continuer à faire son travail. Le SINAFOC ne va pas lâcher. Le SINAFOC va faire entendre sa voix devant les juridictions. Et nous vous donnons rendez-vous ici ou ailleurs pour les résultats de ces procédures qui ont été engagées. De quoi est-ce qu'on a peur? Quoi qu'il en soit, qu'il cache que notre détermination, qu'il sache que notre détermination reste intacte. Comme disait un grand homme, notre détermination à servir les footballeurs reste intacte. Si la décision prise en Assemblée générale reposait sur une quelconque base légale, nous serions à l'heure qu'il est en train de discuter argument contre argument. Mais au lieu de cela, on assiste à des parties de manigances qui n'honorent ni ne grandissent les auteurs de ces basses œuvres. Mesdames et messieurs, amis sportifs, voilà ce que le SINAFOC pouvait vous dire ce matin pour le baromètre et ce mois. Je voudrais quand même également dire que il y a une dernière victoire qui n'a pas été suffisamment annoncée et qui a été engrangée par le SINAFOC à Bali. Le responsable de la communication du SINAFOC a été nommé directeur de la communication de la FIFA Division Afrique au cours de la même assemblée générale, qui est votre confrère. Donc c'est un honneur et un privilège pour le SINAFOC de voir un de ses collaborateurs être élevé à ce rang. Et il faut dire que il était en compétition avec 4 autres personnes, plusieurs autres, et que la shortlist avait 4 personnes, pas des moindres. Ce qui a penché en sa faveur, en définitive, c'est qu'il est parfaitement bilingue, comme notre pays, et c'est une richesse que nous devons conserver. C'est de pouvoir s'exprimer en français et en anglais. Donc, félicitations encore à lui. Et nous pouvons, du SINAFOC, le top management du SINAFOC, nous pouvons lui assurer tout notre soutien, tout notre accompagnement pour qu'il puisse honorer non seulement sa personne, non seulement votre corporation, mais notre pays, le Cameroun, à ce niveau de responsabilité. Félicitations encore. Je reste donc à votre